Banque des Territoires, la radio au Salon des EPL.
Vous écoutez Banque des Territoires, la radio, et nous sommes en direct du congrès des EPL à Cannes. Les EPL, des acteurs à part entière des politiques de santé. Les territoires rencontrent de multiples enjeux dans les domaines de la santé et du médico-social. Et les EPL représentent une solution pour les élus souhaitant maintenir l'offre de soins locale. La Banque des Territoires a édité en partenariat avec la FEDELP un guide qui présente toutes les possibilités offertes par les entreprises publiques locales. Et pour en parler avec nous en plateau, Siama Kakababaye, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes vice-président de l'Eurométropole de Strasbourg, premier adjoint à la maire de Strasbourg en charge des finances et du budget, vice-présidente de la FEDELP et également médecin urgentiste. Et à vos côtés, Isabelle Bonneau-Join. Bonjour Isabelle.
Bonjour Marie-Hélène.
Vous êtes la responsable EPL à la direction de l'investissement de la Banque des Territoires. Alors, Siamak, avant de parler du guide en lui-même, avant de nous intéresser à ce guide, pourquoi est-ce primordial de s'impliquer encore plus sur la question de la santé ?
D'abord parce que c'est une question concrète et les EPL interviennent sur des questions concrètes de la vie des gens, que ce soit le logement, le transport, l'énergie, ça en fait partie. Ensuite parce qu'aujourd'hui on voit bien que dans les enjeux de santé, la question de l'accès aux soins et notamment les soins de proximité est un enjeu pour l'ensemble des collectivités territoriales et la fabrication de solutions opérationnelles qui passent souvent aussi par une partie immobilière. Là, au moins, en tout cas, un élément assez précis dans lequel les EPL peuvent intervenir. Et on voit bien que pour permettre à des collectifs de soignants de s'installer, l'un des premiers problèmes, c'est souvent cette solution immobilière qui manque. Ensuite, il peut y avoir de nombreuses autres implications. Et je pense que la question de la santé est une question de demain. D'abord parce qu'on veut vivre dans des villes en bonne santé, dans des territoires en bonne santé, que le coût de territoires qui sont en mauvaise santé où des gens sont malades, il y a un coût économique, il y a un coût pour le développement économique, il y a un coût bien sûr pour les gens, mais ce coût économique doit être revu. On ne voit pas assez
ça
en France
répercute, oui.
Par rapport au monde anglo-saxon, mais il y a une vraie perte pour les territoires. Et puis enfin, parce que la santé est un domaine d'innovation, et là aussi les EPL sont de vrais acteurs et des actrices d'innovation sur l'ensemble de nos territoires.
Oui, parce qu'on va voir qu'il y a différents domaines dans cette santé, dans cette question de la santé. Isabelle, c'est quoi l'objectif du guide ?
Donner à voir, déjà faire savoir que l'économie mixte apporte des solutions en matière de santé, et pas simplement sur les maisons de santé, mais plus largement. Cette problématique de la santé, c'est un enjeu de société, un enjeu auquel on doit faire face collectivement, c'est un enjeu pour tous les territoires. Et un grand merci à Siama Kakababaye qui porte la problématique au sein de la Fédération des EPL. Et donc ce guide, il a vocation à partager, à montrer les solutions qui existent en matière d'économie mixte sur tous les territoires, que ce soit, ça a été dit, en matière d'offre de soins, mais plus largement en matière de développement économique, en matière de prévention, que ce soit pour le maintien à domicile ou plus largement comme dans la manière dont on fabrique la ville. L'aménagement, c'est aussi une manière de, en intégrant la préoccupation de la santé, on peut un temps en avance sur l'intégration de ces problématiques dans la construction de nos villes et du quotidien. Donc c'est vraiment un enjeu, et pour la Banque des Territoires, c'est vrai que cette problématique de la santé, elle n'est pas forcément immédiate, mais dans le cadre des nouvelles orientations stratégiques qui sont les nôtres, on a identifié la santé comme étant au cœur de nos préoccupations, et notamment pour lutter contre les déserts médicaux, mais aussi pour accompagner le maintien à domicile, les personnes âgées, le handicap, et l'économie mixte pourra aider à apporter des solutions.
Pour une société plus inclusive, évidemment. Isabelle, vous parliez de cas concrets qu'on peut trouver du coup dans le guide. C'est quoi ? C'est des exemples à reproduire éventuellement ?
Inspirer, en fait, donner à voir, savoir que l'économie mixte apporte des solutions. Si on prend l'exemple des maisons de santé, que ce soit en quartier politique de la ville, avec Novapol, par exemple, qui est une des filiales de LOD, que ce soit dans les villes moyennes, je pense à Tandem, qui a réalisé une maison de santé qui accueille plus de 70 professionnels de santé, que ce soit avec Laval Mayenne Aménagement, dans des petites villes de demain ou à Mayenne. Encore, on a une multitude d'exemples qui méritent d'être connus pour se dire que l'économie mixte apporte des solutions. Et je pense que c'est le cas d'ailleurs aussi à Strasbourg avec Habitation Moderne. Mais au-delà des maisons de santé, c'est aussi la manière dont des bailleurs sociaux comme l'IGERIS travaillent, adaptent leur patrimoine pour favoriser le maintien à domicile. C'est aussi des pépinières pour favoriser la recherche médicale. Je pense à la RIVP qui a développé ses locaux. Je pense à la Samgenopole qui favorise les travaux de recherche. En fait, la palette est très large.
Et les formations aussi, j'imagine.
Et en matière d'aménagement, si on prend l'exemple de l'île de Nantes, formidable, la SAMEA fait un super travail pour intégrer les problématiques de santé dans la conception même de la fabrique de la ville. Donc, il y a de nombreux exemples sur lesquels on peut réfléchir et partager et donner à voir et à progresser.
Alors Siamak, effectivement, la santé, ce n'est pas que traiter une maladie, c'est aussi accompagner des personnes dans leur quotidien et aussi la prévention. En matière de santé, du coup, plus largement, quel domaine serait à défricher selon vous ?
Alors, j'ai bien parlé de la santé en proximité et en parcours de soins. Dans les maisons urbaines de santé, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait, vous ne faites pas que de la médecine curative, mais vous faites aussi beaucoup de prévention, vous faites d'éducation à la santé. Et donc, pour faire ça, vous avez besoin d'espace. Vous avez besoin d'une pluridisciplinarité des praticiennes et des praticiens qui interviennent. Et donc, le projet immobilier ne peut pas être le projet immobilier d'un cabinet médical classique. Vous avez besoin de plus de mètres carrés et des espaces qui sont spécialisés et éventuellement mutualisables. Par ailleurs, il faut que le loyer de sortie soit quelque chose qui amène ces praticiennes et praticiens à venir dans un certain nombre de quartiers où l'offre de soins n'est pas assez présente. Et on voit bien que sur un certain nombre de territoires, la question de l'éducation à la santé, prenons l'exemple du diabète, de l'obésité, du surpoids de manière générale et la sédentarité, est un élément qui est essentiel. Ça, on peut le faire avec des EPL. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait concrètement en Strasbourg avec Habitation Moderne, de manière très concrète. S'il n'y avait pas le bailleur, il était impossible de sortir un projet qui intègre la dimension d'éducation à la santé, parce qu'économiquement, les choses, si c'était le marché qui devait l'organiser, ne se faisaient pas. Un exemple concret. Je peux donner peut-être un deuxième exemple dans un domaine un peu différent, celui de la recherche biomédicale. Strasbourg est un territoire très innovant en matière des technologies biomédicales. Et aujourd'hui, c'est une EPL qui nous aide à organiser un centre d'accueil des entreprises innovantes en matière de santé, des coopérations entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. C'est notre SEM d'aménagement, la CERS, qui va lancer le projet NextMed, qui est un projet partenarial cofinancé par les collectivités et l'État et qui va demain accueillir un certain nombre de centres d'excellence de recherche européens et conforter notre territoire dans cette vocation d'excellence dans le domaine biomédical.
Alors justement, dans votre ville, Strasbourg, différentes actions liées à la santé sont mises en place, notamment l'accompagnement des femmes enceintes, je crois.
Alors c'est aussi quelque chose qui demain, j'espère, pourra inspirer des coopérations entre les collectivités et les entreprises publiques locales. La question de la prévention, je l'ai dit, très intéressante. Le sport santé sur ordonnance qui est parti de Strasbourg et qui aujourd'hui commence à irriguer le territoire national. Et ce qu'on a appelé l'ordonnance verte, qui sont des paniers de légumes bio qui sont délivrés à toutes les femmes enceintes qui en font la demande sur le territoire de la ville de Strasbourg pendant la durée de leur grossesse pour les amener à une alimentation qui est plus saine. Mais on allie à la question de la santé, du conseil en nutrition, une autre question qui est la production de ces légumes. Du coup, comment on organise la filière agricole en amont? Et puis, comment on organise ça avec des personnes qui sont éloignées de l'emploi, une dimension sociale et des clauses sociales avec l'intervention de l'économie sociale et solidaire. Et ça, je pense que ça peut être un champ de développement à l'échelle nationale parce que ça combine un ensemble d'enjeux d'être en bonne santé, changer son modèle alimentaire, d'être sur une alimentation qui est plus respectueuse du climat, amener des personnes éloignées de l'emploi vers l'emploi et fabriquer un modèle économique qui marche aussi.
Vertueux. Et bon pour tout le monde. C'est un bel exemple, Isabelle.
Passionnant, moi, j'adore.
Vous étiez au courant de cette
action? Non, pas sur les femmes enceintes, et vraiment, je trouve ça exemplaire.
Sur quel autre sujet d'avenir vous souhaiteriez vous pencher?
La question des hôpitaux, je suis médecin hospitalier, donc je vois aussi l'ensemble des enjeux qu'il y a dans les hôpitaux. Il y a un certain nombre de dysfonctionnements qui sont dus à des problèmes probablement de moyens. C'est quelque chose qui se règle au niveau national, mais il y a aussi un certain nombre de sujets locaux. Des hôpitaux sont des propriétaires fonciers avec un patrimoine ancien, en mauvais état, énergivore. les questions de déplacement, les questions des déchets, les questions de blanchisserie, les questions de restauration collective, un certain nombre d'éléments qui font que ben, les hôpitaux peuvent être aussi un terrain non seulement d'expérimentation, mais de coopération entre collectivités et les EPL. Mais pour cela, on a besoin que demain la législation puisse évoluer. C'est le sens d'un groupe de travail que j'anime avec d'autres au sein de la fédération, on se retrouve avec Isabelle, sur la possibilité demain des SPL hospitalières, où on pourrait avoir des collectivités, des centres hospitaliers, et où on peut aider le monde hospitalier à relever ces défis, qui sont des défis énormes, qui nécessitent des investissements et qui nécessitent aussi une ingénierie que nous avons, heureusement, dans nos entreprises publiques locales.
Merci à vous, Siama Kagababay, et merci à vous, Isabelle Bonnojoint. On vous souhaite une bonne après-midi sur le congrès des EPL.
Merci beaucoup.
Alors, on va continuer notre émission avec un reportage sur la lutte contre les déserts médicaux, les EPL qui ont des solutions. On va partir dans différentes régions, justement, pour parler de cette lutte contre les déserts médicaux.
La problématique à Massy, elle n'est pas spécifiquement massicoise évidemment, hein. Elle est francilienne et même nationale, hein. C'est les mêmes chiffres qu'ailleurs, et c'est le nombre de médecins insuffisants, des médecins qui vieillissent et donc des gens qui ont plus de capacité à trouver un médecin, c'est des temps d'attente qui se font plus longs et qui concernent quand même une grande diversité de professions médicales. Dans les logiques qui permettent à une entreprise publique locale d'intervenir là-dessus, c'est cette espèce de frange un peu particulière où il faut à la fois un projet qui vole économiquement, hein, on n'est pas dans un projet de subvention publique, et avec une rentabilité qui soit strictement mesurée et aux conditions du marché, voire un petit peu en dessous, pour pouvoir être accessible aux subventions. Et là, on a un truc qui marcherait pas, ou en tout cas pas de manière aussi rapide et pas avec une telle prise de risque avec un opérateur privé. Voilà, la maîtrise publique des murs des commerces et services, c'est un sujet majeur pour toutes les EPL.
À l'occasion de la définition de notre plan stratégique en 2014, il a été fait le constat que beaucoup de collectivités faisaient face à des problématiques très fortes de désertification médicale. Une des réponses que les collectivités ont souhaité apporter, c'est la construction de maisons de santé pluriprofessionnelles. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons commencé à travailler avec les collectivités. Une maison de santé, ça n'est pas qu'un projet immobilier, et surtout pas un projet immobilier, c'est avant tout un projet de santé de territoire. Et donc il est primordial que les professionnels puissent s'inscrire dans cette démarche collective avec un référent, avec un accompagnement également de la collectivité, pour que finalement ce bâtiment soit à l'image de ce que les professionnels de santé veulent offrir comme soins à la population. Vous imaginez bien que travailler avec des professionnels de santé qui sont extrêmement pris par leur métier nécessite du temps d'investissement en soirée pour bien comprendre les différents enjeux, et surtout que assez rapidement il puisse y avoir un protocole d'engagement qui fixe les engagements de chaque partie prenante, la collectivité bien évidemment, les professionnels eux-mêmes et l'ASEM. L'ASEM offre une souplesse d'intervention. Je prends l'exemple de Mayenne. Nous avons pu travailler une assistance à maîtrise d'ouvrage pour la pharmacie qui était un projet privé. Nous avons pu vendre un local pour le laboratoire d'analyse médicale. Nous avons pu faire de la vente, de la location directe à chaque professionnel. Et donc, ça nous permet d'offrir vraiment une palette complète au plus proche des besoins des professionnels.
2016, il y a un premier rapport qui fait état d'un diagnostic territorial qui montre un déficit d'offre de soins dans ces deux quartiers, Nantes-Nord et Bellevue. À l'issue de ce diagnostic, l'opportunité de créer des maisons de santé ont été retenues, des groupes d'habitants ont été créés, des groupes de professionnels en lien avec les associations aussi, et puis en lien aussi concertation avec les médecins et professionnels de santé qui étaient déjà situés sur ces quartiers. Quel sens on voulait donner et quels objectifs on donnait à ces maisons. Donc d'abord de réduire les inégalités dans des quartiers où ces inégalités sont fortes, et réunir dans un seul lieu donc différents professionnels de santé, c'est l'objectif des maisons de santé, mais pas uniquement. L'enjeu, c'est aussi de réunir dans un lieu des services autour de la vie associative, des missions de prévention, de permanence de médiateurs, autour de sujets comme la santé en général, santé des femmes, la diététique, l'activité physique, d'avoir un accès et une porte unique pour toutes ces questions qui ont trait à la santé.
L'implication des EPL dans le domaine de la santé, eh bien ça se passe aussi dans les territoires ultramarins. Un exemple avec vous, Alexandre.
Oui, on va parler de la société d'équipement du département de la Réunion et de son action, la CEDRE. C'est un opérateur historique du développement de l'aménagement de l'île de la Réunion, une structure créée en 1968, quelques décennies d'expérience, et dont le directeur général est avec nous, Yannick Panette-Fontaine. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Le sujet de cette partie de l'émission, Marie-Hélène vient de nous le rappeler, c'est la santé. La société d'équipement du département de la Réunion intervient sur la commune de La Possession avec un projet de pôle santé actuellement. C'est quoi ? De quoi s'agit-il ? Et quel rôle de la CEDRE dans ce projet ?
Bah écoutez, pour nous, ça a été effectivement une réelle opportunité d'intervenir sur cette commune à l'île de la Réunion. Donc, faut savoir que on intervient au titre d'une ZAC, donc une zone d'aménagement concertée. C'est une commune qui est très dynamique, avec chaque année un peu plus de 1000 habitants qui arrivent sur ce territoire. Et c'est vrai qu'il y a eu effectivement une volonté des élus de cette commune, et notamment Madame le maire, d'avoir effectivement ce souhait de regrouper au travers d'une plateforme de santé, d'avoir une possibilité de mettre en commun un certain nombre de praticiens et d'améliorer ainsi l'offre de soins sur le territoire de la commune. Donc oui, ça a été effectivement pour nous une belle opportunité en tant que promoteur-constructeur, parce qu'il faut savoir que dans ce type de projet, bah, il y a effectivement, on est sur un public cible avec effectivement un niveau d'exigence. Et il a fallu effectivement, dès le départ de ce type de projet, d'établir effectivement un réel partenariat de proximité avec les praticiens de cette plateforme.
Qu'est-ce que ça vous a appris, ce projet, puisque ce n'est pas forcément des domaines dans lesquels vous aviez votre action auparavant? Quels enseignements vous tirez de cette expérience pour un aménageur comme la CEDRE?
Bah, c'est vrai que ça nous a sorti un peu de notre zone de confort, parce qu'on est encore une fois sur un public cible, avec quand même des métiers derrière qui sont très, très normés. Donc oui, en tant que promoteur, ça nous a en tout cas forgé une expérience sur ce segment d'activité qu'on n'a pas forcément l'habitude d'intervenir.
Est-ce que ça vous a prouvé une fois de plus, s'il en avait besoin, que vous avez aussi une capacité d'adaptation avec votre travail ?
Oui, tout à fait, une forte capacité d'adaptation, mais en même temps, c'est aussi une manière pour nous, en tant que SEM, opérateur, aménageur, de se différencier et de se positionner sur un segment d'activité qui n'était pas forcément le nôtre, et ça nous fait aussi une belle signature et une carte de visite pour la SEM.
Voilà, une capacité aussi à pouvoir s'adapter à différents types de projets, Marie-Hélène.